18. Madame Récamier revient en France. Lettre de Madame de Genlis. La beauté exilée en Italie revenait de Naples à Paris. Elle ne s'arrêta qu'à Rome pour assister à l'entrée du pape reprenant possession de ses états. Dans le 23e livre de ses mémoires, vous avez conduit Pie VII, mis en liberté à Fontainebleau jusqu'aux portes de Saint-Pierre. Joachim, encore vivant, allait disparaître, et Pie VII reparaissait. Derrière eux, Napoléon était frappé. La main du conquérant laissait tomber le roi et se relevait le pontife. Pie VII fut reçu avec des cris qui ébranlaient les ruines de la ville des ruines. On détella sa voiture et la foule le traîna jusqu'au degré de l'église des apôtres. Le Saint-Père ne voyait rien. N'entendait rien. Ravi en esprit, sa pensée était loin de la terre. Sa main se levait seulement sur le peuple par la tendre habitude des bénédictions. Il pénétra dans la basilique au bruit des fanfares, au chant du Te Deum, aux acclamations des Suisses de la religion de Guillaume Tell. Les encensoirs lui envoyaient des parfums qu'il ne respirait pas. Il ne voulut point être porté sur le pavois à l'ombre du dais et des palmes. Il marcha comme un naufragé, accomplissant un vœu à Notre-Dame de Bon Secours, et chargé par le Christ d'une mission qui devait renouveler la face de la terre. Il était vêtu d'une robe blanche. Ses cheveux restés noirs, malgré le malheur et les ans, contrastaient avec la pâleur de l'anachorète. Arrivé au tombeau des apôtres, il se prosterna. Il demeura plongé, immobile et comme mort dans les abîmes des conseils éternels. L'émotion était profonde, et des protestants, témoins de cette scène, pleuraient à chaudes larmes. Quel sujet, en effet, de méditation! Un prêtre infirme, caduc, sans force, sans défense, enlevé du Quirinal, transporté captif au fond des Gaules, un martyr qui n'attendait plus que sa tombe, délivré miraculeusement des mains de Napoléon qui avait pressé le globe. Reprenant l'empire d'un monde indestructible, quand les planches d'une prison d'outre-mer et d'un cercueil se préparaient pour ce formidable geôlier des peuples et des rois. Pie VII survécut à l'empereur. Il vit revenir au Vatican les chefs-d'œuvre, amis fidèles qui l'avaient accompagné dans son exil. Au retour de la persécution, le pontife septuagénaire, prosterné sous la coupole de Saint-Pierre, montrait à la fois toute la faiblesse de l'homme et toute la grandeur de Dieu. Il semblait écouter la vie tombant dans l'éternité. En descendant des Alpes de la Savoie, Madame Récamier trouva, au pont de Beauvoisin, le drapeau blanc et la cocarde blanche. Elle ne les avait jamais vus. Les processions de la fête-Dieu, parcourant les villages, semblaient être revenues avec le roi très chrétien. À Lyon, la voyageuse tomba au milieu d'une fête pour la restauration. L'enthousiasme était sincère. À la fête des réjouissances, paraissaient Alexis de Noailles et le colonel Clary, beau-frère de Joseph Bonaparte. Ce qu'on raconte aujourd'hui de la froideur et de la tristesse dont la légitimité fut accueillie à la première restauration, est une impudente menterie. La joie fut générale dans les diverses opinions, même parmi les conventionnels, même parmi les impérialistes. Voyez les paroles de Carnot, livre 6, troisième partie de ses mémoires. Les soldats exceptés. Leur noble fierté souffrait de ses revers. aujourd'hui que le poids du gouvernement militaire ne se sent plus, que les vanités se sont réveillées. Il faut nier les faits parce qu'ils ne s'arrangent pas avec les théories du moment. Il convient à un système que la nation ait reçu les Bourbons avec horreur et que la Restauration ait été un temps d'oppression et de misère. Cela conduit à de tristes réflexions sur la nature humaine. Si les Bourbons avaient eu le goût et la force d'opprimer, ils se pouvaient flatter de conserver longtemps le trône. Les violences et les injustices de Bonaparte, dangereuses à son pouvoir en apparence, le servirent en effet. On s'épouvante des iniquités, mais on s'en forge une grande idée. On est disposé à regarder comme un être supérieur celui qui se place au-dessus des lois. Madame de Staël, arrivée à Paris avant Madame Récamier, lui avait écrit plusieurs fois. Ce billet seul était parvenu à son adresse. Paris, ce 20 mai. Je suis honteuse d'être à Paris sans vous, cher ange de ma vie. Je vous demande vos projets. Voulez-vous que j'aille au-devant de vous à Copé, où je vais rester 4 mois? Après tant de souffrances, ma plus douce perspective, c'est vous, et mon cœur vous est à jamais dévoué. Un mot sur votre départ et votre arrivée. J'attends ce mot pour savoir ce que je ferai. Je vous écris à Rome, à Naples, etc. Madame de Genlis, qui n'avait jamais eu de rapport avec Madame Récamier, s'empressa de s'approcher d'elle. Je trouve dans un passage l'expression d'un vœu qui, réalisé, eût épargné au lecteur mon récit. Guillemets, 11 octobre. Voilà, madame, le livre que j'ai eu l'honneur de vous promettre. J'ai marqué les choses que je désire que vous lisiez. Venez, madame, pour me conter votre histoire en ces termes, comme on fait dans les romans. Puis ensuite, je vous demanderai de l'écrire en forme de souvenirs qui seront remplis d'intérêt parce que, dans la plus grande jeunesse, vous avez été jeté avec une figure ravissante, un esprit plein de finesse et de pénétration, au milieu de ce tourbillon d'erreurs et de folies. Que vous avez tout vu, et qu'ayant conservé pendant ces orages des sentiments religieux, une âme pure, une vie sans tache, un cœur sensible et fidèle à l'amitié. N'ayant ni envie ni passion haineuse, vous peindrez tout avec les couleurs les plus vraies. Vous êtes un des phénomènes de ce temps-ci et certainement le plus aimable. Vous me montrerez vos souvenirs. Ma vieille expérience vous offrira quelques conseils et vous ferez un ouvrage utile et délicieux. N'allez pas me répondre « je ne suis pas capable », etc. Vous pouvez jeter sans remords les yeux sur le passé. C'est en tout temps le plus beau des droits. Dans celui où nous sommes, c'est inappréciable. Profitez-en pour l'instruction des deux jeunes personnes que vous élevez. Ce sera pour elles votre plus grand bienfait. Adieu, madame. Permettez-moi de vous dire que je vous aime et que je vous embrasse de toute mon âme. 19. Lettre de Benjamin Constant. Maintenant que Madame Récamier est rentrée dans Paris, je vais retrouver pendant quelque temps mes premiers guides. La reine de Naples, inquiète des résolutions du congrès de Vienne, écrivit à Madame Récamier pour qu'elle lui découvrît un homme capable de traiter de ses intérêts à Vienne. Madame Récamier s'adressa à Benjamin Constant et le pria de rédiger un mémoire. Cette circonstance eut sur l'auteur de ce mémoire l'influence la plus malheureuse. Un sentiment orageux fut la suite d'une entrevue. Sous l'empire de ce sentiment, Benjamin Constant, déjà violent anti-bonapartiste, comme on le voit dans « L'esprit de conquête », laissa déborder des opinions dont les événements changèrent bientôt le cours. De là, une réputation de mobilité politique funeste aux hommes d'État. Madame Récamier, tout en admirant Bonaparte, était restée fidèle à sa haine contre l'oppresseur de nos libertés et contre l'ennemi de Madame de Staël. Quant à ce qui la regardait elle-même, elle n'y pensait pas, et elle eût fait bon marché de son exil. Les lettres que Benjamin Constant lui écrivit à cette époque serviront d'étude, sinon du cœur humain, du moins de la tête humaine. Guillemets, mardi, Voici le mémoire. Ne me le renvoyez pas, il pourrait se perdre parce que je suis obligé de sortir. J'irai le prendre à l'heure que vous voudrez et nous le lirons ensemble. Savez-vous que je n'ai rien vu durant cette vie, déjà si longue, et que vous troublez? Rien au monde de pareil à vous. J'ai porté votre image chez M. de Talleyrand, chez Beugnot, chez moi, partout. J'en suis triste et presque étonné. Certes, je ne plaisante pas, car je souffre. Je me retiens sur une pente rapide. Il vous est si égal de faire souffrir dans ce genre. Les anges aussi ont leur cruauté. Enfin, pour l'amour du roi Joachim, remettez-moi le mémoire vous-même. Il ne serait pas prudent de me l'envoyer. Partez-vous ce soir? Allez-vous à Angervilliers dimanche ou quand vous voudrez? Que me font mes autres engagements? Revenez-vous demain? Votre absence m'importune. Savez-vous que vous avez mis quelque volonté à me rendre fou? Que ferez-vous si je le suis? Enfin, le mémoire en main propre aujourd'hui. C'est un devoir à vous de ne pas le risquer. C'est un devoir de diplomatie. Samedi. Je suis rentré chez moi inquiet et troublé de votre conversation de ce soir. Non que je me plaigne de vous et de votre adorable bonté qui est si nécessaire à ma vie. Mais gêné que j'étais par la présence de M. Ballanche, je n'ai pas assez bien plaidé ma cause, occupé trop uniquement de vous, je n'ai pas assez senti que mon sort était dans ses mains, que vous le consulteriez et qu'il pourrait, sans vouloir me nuire, mais faute de me connaître, vous donner des impressions funestes. J'étais sur le point, avant de sortir, de me jeter à ses genoux pour le supplier de ne pas me faire de mal. Mais tout ce qui me paraît théâtral me répugne, même quand c'est vrai. Je prends donc le seul parti qui me reste. Je vous écris avant de me coucher et de chercher un peu de repos, si j'en puis trouver. Je ne vous ai dit ce soir aucune des choses que j'aurais dû vous dire. Vous avez demandé si souvent ce que vous deviez faire et ce qui résulterait de ma passion pour vous. Je vais vous le dire, ange du ciel, ce que vous devez faire et ce qui en résultera. Cette passion n'est pas une passion ordinaire. Elle en a toute l'ardeur, elle n'en a pas les bornes. Elle met à votre disposition un homme spirituel, dévoué, courageux, désintéressé, sensible, dont jusqu'à ce jour les qualités ont été inutiles parce qu'il lui manque la raison nécessaire pour les diriger. Eh bien, soyez cette raison supérieure. Guidez-moi, tandis que mes forces sont entières et que le temps s'ouvre devant moi pour que je fasse quelque chose de beau et de bon. Vous savez comme ma vie a été dévastée par des orages venus de moi et des autres, et malgré cela, malgré tant de jours, de mois, d'années prodiguées, j'ai acquis un peu de réputation. Né loin de Paris, j'étais parvenu à y occuper une place importante. Aujourd'hui même, je ne puis me le cacher, les yeux sont tournés vers moi quand on a besoin d'une voix qui rappelle les idées généreuses. Je n'ai su tirer aucun parti de mes facultés qu'on reconnaît plus que je ne les sens moi-même, parce que je n'ai aucune raison. Emparez-vous de mes facultés, profitez de mon dévouement pour votre pays et pour ma gloire. Vous dites que votre vie est inutile, et la Providence remet entre vos mains un instrument qui a quelque puissance, si vous daignez vous en servir. Laissons de côté ces luttes sur des mots qui ne changent rien aux choses. Soyez mon ange tutélaire, mon bon génie, le Dieu qui ordonnera le chaos dans ma tête et dans mon cœur. Qui sait ce que l'avenir réserve à la France? Et si je puis y faire triompher de nobles idées, et si c'est par vous que j'en reçois la force, si mes facultés, qu'on dit supérieures, servent à mon pays et à une sage liberté, direz-vous encore que votre vie n'a servi à rien? Cette moralité dont vous m'accusez de manquer, rendez-la moi. La fatigue d'une exagération perpétuelle, plus pénible parce que les actions ne s'accordent pas aux paroles. Cette fatigue m'a rendu sec, ironique, m'a ôté, dites-vous, le sens du bien et du mal. Je suis dans votre main comme un enfant. Rendez-moi les vertus que j'étais fait pour avoir, usez de votre puissance, ne brisez pas l'instrument que le ciel vous confie. Votre carrière ne sera pas inutile si, dans un temps de dégradation et d'égoïsme, vous avez formé un noble caractère. Donnez à tout ce qui est bon un courageux défenseur. Versez du bonheur dans une âme souffrante, de la gloire sur une vie que le découragement opprimait. Vous pouvez tout cela. Vous le pouvez par votre seule affection. Mais ce que vous ne pouvez pas, c'est de me détacher de vous. Et vous ne pouvez pas non plus, avec votre nature angélique, supporter l'affreuse douleur que vous m'infligeriez. Vous me feriez du mal inutilement. Car en me voyant au désespoir, mourant dans les convulsions à votre porte, vous reviendriez sur vos résolutions, il n'y aurait eu que de la souffrance sans résultat, tandis qu'il peut y avoir du bonheur, de la gloire et de la morale. Faites-moi, si vous voulez être bonne, dire un seul mot que je puisse interpréter comme un léger signe d'amitié. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas de ces femmes qui sont d'autant plus indifférentes qu'elles sont plus sûres d'être aimées. Non, vous êtes en figure, en esprit, en pureté, en délicatesse, l'être idéal que l'imagination concevrait à peine si vous n'existiez pas. Remettez cette lettre à M. Ballanche. Je voudrais qu'il me jugeât bien, qu'il ne travaillât pas contre moi, qu'il ne m'empêchât pas de devenir par vous ce que la nature veut que je sois, ce que la Providence m'a rendu la possibilité d'être, en faisant descendre sur la terre un de ses anges pour me diriger. Il est 3 heures, voici mon livre. Oh, lisez-le, je crois que vous y verrez pourtant que j'ai le sens du bien et du mal. Mercredi. Je suis rentrée chez moi dans la plus violente colère que j'ai éprouvée. Mon malheureux cocher, à qui j'avais dit de rentrer chez lui, avait compris qu'il devait entrer, et s'était niché dans la cour, puis dans l'écurie. J'ai tremblé que je n'ébranlasse la maison au milieu du silence qui régnait, et que vous ne m'en suciez mauvais gré. En arrivant, j'ai grondé, payé, chassé l'homme, cheval et voiture. Mais l'inquiétude me reste, et au lieu de me coucher, je vous écris. Puisque j'ai commencé, je continue. Cela m'arrive si rarement que je vous supplie de me lire. Je n'ai rien à dire, il est vrai que vous ne sachiez. Mais vous le répétez est un besoin continuel, auquel je ne résiste que parce que vous m'avez inspiré presque autant de crainte que de passion. Certes, vous me devez au moins cette justice, que jamais sentiment si violent ne fut moins importun. Je vous aime comme le premier jour où vous m'avez vu fondre en larmes à vos pieds. Je souffre autant à la moindre preuve d'indifférence, et elles sont nombreuses. Ma vie est une inquiétude de chaque minute. Je n'ai qu'une pensée. Vous tenez tout mon être dans votre main comme Dieu tient sa créature. Un regard, un mot, un geste change toute mon existence. Et pourtant je me soumets à tout, parce que je ne pourrais vivre sans vous voir. Et souvent, le cœur tout meurtri des coups que vous me portez, sans vous en douter, je me force à de la gaieté pour obtenir de vous un sourire. Ne voyez-vous pas combien votre empire est absolu, combien il force mon sentiment même à se maîtriser? Quand je vous contemple, quand mes regards vous dévorent, quand chacun de vos mouvements porte le délire dans mes sens, un geste de vous me repousse et me fait trembler. Oh, que je donnerais volontiers ma vie pour une heure. Mais aussi n'êtes-vous pas un ange du ciel? N'êtes-vous pas ce que la nature a créé de plus beau, de plus séduisant, de plus enchanteur, dans chaque regard, dans chaque mot que vous dites? Y a-t-il une femme qui réunisse à tant de charme cet esprit si fin, cette gaieté si naïve et si piquante, cet instinct admirable de tout ce qui est noble et pur? Vous planez au milieu de tout ce qui vous entoure, modèle de grâce et de délicatesse, et d'une raison qui étonne par sa justesse, et qui captive par la bonté qui l'adoucit. Pourquoi cette bonté se démantèle quelquefois, et pour moi seule? Jamais je n'ai aimé, jamais personne n'a aimé comme je vous aime. Je vous l'ai dit ce soir, quand vous aurez à m'affliger, consolez-moi en m'indiquant un dévouement, un danger, une peine à supporter pour vous. Il est trop vrai, je ne suis plus moi, je ne puis plus répondre de moi. Crime, vertu, héroïsme, lâcheté, anéantissement, tout dépend de vous. Tout ce que je n'aurai pas fait, vous en rendrez compte. Prenez-moi donc tout entier. Prenez-moi sans vous donner. Mais dites-vous bien que je suis avec vous comme un instrument aveugle, comme un être que vous seul animez, qui ne peut plus avoir d'âme que la vôtre. Ô mon Dieu, si vous m'aimiez, enfin vous le voyez, vous m'avez à peu de frais. Faites de moi ce que vous voudrez. Quand vous ne voudrez pas me voir seul, je vous suivrai de mes regards dans le monde. Si votre porte m'était fermée, je me coucherais dans la rue à votre porte. Et pourtant, quand je vous verrai, je ne vous dirai rien de tout cela parce que vous ne voulez pas l'entendre. Mais au moins, vous pouvez le lire, cela ne vous engage à rien. Comparez ce sentiment avec d'autres, et au fond de votre cœur, rendez-moi justice. Adieu, vous me pardonnez, n'est-ce pas, de vous avoir écrit. J'ai 20 lettres commencées depuis 10 jours, et que l'idée qu'elles vous importunent m'a empêché de vous envoyer. Soyez bonne pour moi, ou bien soyez ce que vous voudrez. Rien ne m'empêchera de vous être dévouée jusqu'à la mort. Rien n'interrompra ce culte d'amour, cette admiration enthousiaste qui est tout ce qui peut remplir mon cœur et le seul sentiment qui me fasse vivre. Il est 5 heures. À 7 ou 8, je me lèverai pour faire le bulletin. Je ferai un article, quand vous le voudrez, pour Antigone. J'achèverai mon livre. Donnez-moi donc plus de choses, et des choses plus difficiles à faire. Demandez-moi la moitié de ma fortune pour les pauvres, la moitié de mon sang pour une cause qui vous intéresse. Servez-vous de moi de quelque manière, et quand je vous aurai bien servi, pour me récompenser de mon zèle, servez-vous encore de moi. Fin des guillemets. Voilà tout ce que pouvait faire d'une passion un esprit ironique et romanesque, sérieux et poétique. Rousseau n'est pas plus véritable, mais il mêle à ses amours d'imagination une mélancolie sincère et une rêverie réelle.
Retour de Bonaparte, article de Benjamin Constant. Cependant, Bonaparte était débarqué à Cannes. La perturbation de son approche commençait à se faire sentir. Benjamin Constant envoya ce billet à Madame Récamier. « Pardon si je profite des circonstances pour vous importuner, mais l'occasion est trop belle. Mon sort sera décidé dans 4 ou 5 jours, sûrement. Car, quoique vous aimiez à ne pas le croire pour diminuer votre intérêt, je suis certainement, avec Marmont, Chateaubriand et l'aîné, l'un des 4 hommes les plus compromis de France. Il est donc certain que si nous ne triomphons pas, je serai dans 8 jours ou proscrit et fugitif, ou dans un cachot, ou fusillé. Accordez-moi donc, pendant les 2 ou 3 jours qui précéderont la bataille, le plus que vous pourrez de votre temps et de vos heures. Si je meurs, vous serez bien aise de m'avoir fait ce bien, et vous seriez fâché de m'avoir affligé. Mon sentiment pour vous est ma vie. Un signe d'indifférence me fait plus de mal que ne pourra le faire dans 4 jours mon arrêt de mort. Et quand je pense que le danger est un moyen d'obtenir de vous un signe d'intérêt, je n'en éprouve que de la joie. Avez-vous été contente de mon article, et savez-vous ce qu'on en dit ? Benjamin Constant avait raison, il était aussi compromis que moi. Attaché à Bernadotte, il avait servi contre Napoléon. Il avait publié son écrit « De l'esprit de conquête » dans lequel il traitait le tyran plus mal que je ne le traitais dans ma brochure « De Bonaparte et des Bourbons ». Il mit le comble à ses périls en parlant dans les gazettes. Le 19 mars, au moment où Bonaparte était aux portes de la capitale, il fut assez ferme pour signer dans le journal des débats un article terminé par cette phrase. « Je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme et balbutier des mots profanés pour racheter une vie honteuse. Benjamin Constant écrivit à celle qui lui avait inspiré ses nobles sentiments. « Je suis bien aise que mon article ait paru. On ne peut au moins en soupçonner aujourd'hui la sincérité. Voici un billet que l'on m'écrit après l'avoir lu. Si j'en recevais un pareil d'une autre, je serais gai sur l'échafaud. » Madame Récamier s'est toujours reprochée d'avoir eu, sans le vouloir, une pareille influence sur une destinée honorable. Rien, en effet, n'est plus malheureux que d'inspirer à des caractères mobiles ces résolutions énergiques qu'ils sont incapables de tenir. Benjamin Constant démentit le 20 mars son article du 19. Après avoir fait quelques tours de roue pour s'éloigner, il revint à Paris et se laissa prendre aux séductions de Bonaparte. Nommé conseiller d'État, il effaça ses pages généreuses en travaillant à la rédaction de l'acte additionnel. Depuis ce moment, il porta au cœur une plaie secrète. Il n'aborda plus avec assurance la pensée de la postérité. Sa vie attristée et défleurie n'a pas peu contribué à sa mort. Dieu nous garde de triompher des misères dont les natures les plus élevées ne sont point exemptes. Le ciel ne nous donne des talents qu'en y attachant des infirmités. Expiations offertes à la sottise et à l'envie. Les faiblesses d'un homme supérieur sont ces victimes noires que l'Antiquité sacrifiait aux dieux infernaux. Et pourtant, il ne se laisse jamais désarmer. 21. Madame de Krautner, le duc de Wellington. Madame Récamier était restée en France pendant les 100 jours où la reine Hortense l'invitait à demeurer. La reine de Naples lui offrait au contraire un asile en Italie. Les 100 jours passèrent. Madame de Krautner suivit les alliés arrivés de nouveau à Paris. Elle était tombée du roman dans le mysticisme. Elle exerçait un grand empire sur l'esprit de l'empereur de Russie. C'est elle qui fit donner à l'Alliance des rois de l'Europe le nom de Sainte. Madame de Krautner logeait dans un hôtel du faubourg Saint-Honoré. Le jardin de cet hôtel s'étendait jusqu'aux Champs-Élysées. Alexandre arrivait incognito par une porte du jardin, et des conversations politico-religieuses finissaient par de ferventes prières. Madame de Krautner m'avait invitée à l'une de ses sorcelleries célestes. Moi, l'homme de toutes les chimères, j'ai la haine de la déraison, l'abomination du nébuleux et le dédain des jongleries. On n'est pas parfait. La scène m'ennuya. Plus je voulais prier, plus je sentais la sécheresse de mon âme. Je ne trouvais rien à dire à Dieu et le diable me poussait à rire. J'avais mieux aimé Madame de Krautner lorsqu'environnée de fleurs et habitante encore de cette chétive terre, elle composait Valérie. Seulement, je trouvais que mon vieil ami, M. Michaud, mêlé bizarrement à cette idylle, n'avait pas assez du berger, malgré son nom. Madame de Krautner, devenue Séraphin, cherchait à s'entourer d'anges. La preuve en est dans ce billet charmant de Benjamin Constant à Madame Récamier. Guillemet. Jeudi. Je m'acquitte avec un peu d'embarras d'une commission que Madame de Krautner vient de me donner. Elle vous supplie de venir la moins belle que vous pourrez. Elle dit que vous éblouissez tout le monde et que par là toutes les âmes sont troublées et toutes les attentions impossibles. Vous ne pouvez pas déposer votre charme, mais ne le rehaussez pas. Je pourrais ajouter bien des choses sur votre figure à cette occasion, mais je n'en ai pas le courage. On peut être ingénieux sous le charme qui plaît, mais non sur celui qui tue. Je vous verrai tout à l'heure. Vous m'avez indiqué 5 heures, mais vous ne rentrerez qu'à 6, et je ne pourrai vous dire un mot. Je tâcherai pourtant d'être aimable encore cette fois. » Fin des guillemets. Le duc de Wellington ne prétendait-il pas aussi à l'honneur d'attirer un regard de Juliette? Un de ces billets que je transcris n'a de curieux que la signature. À Paris, ce 13 janvier. J'avoue, madame, que je ne regrette pas beaucoup que les affaires m'empêchent de passer chez vous après dîner, puisque, à chaque fois que je vous vois, je vous quitte plus pénétré de vos agréments et moins disposé à donner mon attention à la politique. Je passerai chez vous demain à mon retour de chez l'abbé Sicard, en cas que vous vous y trouvassiez et malgré l'effet que ces visites dangereuses produisent sur moi. Votre très fidèle serviteur, Wellington. À son retour de Waterloo, entrant chez Madame Récamier, le duc de Wellington s'écria « Je l'ai bien battu !» Dans un cœur français, son succès lui aurait fait perdre la victoire. Eût-il pu jamais y prétendre ? 22. Je retrouve Madame Récamier, mort de Madame de Staël. Ce fut à une douloureuse époque pour l'illustration de la France que je retrouvai Madame Récamier. Ce fut à l'époque de la mort de Madame de Staël. Rentrée à Paris après les 100 jours, l'auteur de Delphine était revenue souffrante. Je l'avais revue chez elle et chez Madame la Duchesse de Duras. Peu à peu, son état empirant, elle fut obligée de garder le lit. Un matin, j'étais allée chez elle, rue Royale. Les volets des fenêtres étaient aux 2/3 fermés. Le lit rapproché du mur du fond de la chambre ne laissait qu'une ruelle à gauche. Les rideaux retirés sur les tringles formaient 2 colonnes au chevet. Madame de Staël, à demi assise, était soutenue par des oreillers. Je m'approchai, et quand mon œil se fut un peu accoutumé à l'obscurité, je distinguai la malade. Une fièvre ardente animait ses joues. Son beau regard me rencontra dans les ténèbres, et elle me dit « Bonjour, my dear Francis, je souffre, mais cela ne m'empêche pas de vous aimer. » Elle étendit sa main que je pressai et baisai. En relevant la tête, j'aperçus au bord opposé de la couche, dans la ruelle, quelque chose qui se levait, blanc et maigre. C'était Monsieur de Rocca, le visage défait, les joues creuses, les yeux brouillés, le teint indéfinissable. Il se mourait. Je ne l'avais jamais vu et ne l'ai jamais revu. Il n'ouvrit pas la bouche. Il s'inclina en passant devant moi. On n'entendait point le bruit de ses pas. Il s'éloigna à la manière d'une ombre. Arrêté un moment à la porte, la nueuse idole, frôlant les doigts, se retourna vers le lit pour ajourner Madame de Staël. Ces 2 spectres qui se regardaient en silence, l'un debout et pâle, l'autre assis et coloré d'un sang prêt à redescendre et à se glacer au cœur, faisaient frissonner. Peu de jours après, Madame de Staël changea de logement. Elle m'invita à dîner chez elle, rue Neuve des Mathurins. J'y allai. Elle n'était point dans le salon et ne put même assister au dîner. Mais elle ignorait que l'heure fatale était si proche. On se mit à table. Je me trouvai assis près de Madame Récamier. Il y avait 12 ans que je ne l'avais rencontrée, et encore ne l'avais-je aperçue qu'un moment. Je ne la regardais point, elle ne me regardait pas. Nous n'échangeions pas une parole. Lorsque, vers la fin du dîner, elle m'adressa timidement quelques mots sur la maladie de Madame de Staël, je tournai un peu la tête, je levai les yeux, et je vis mon ange gardien à ma droite. Je craindrais de profaner aujourd'hui par la bouche de mes années un sentiment qui conserve dans ma mémoire toute sa jeunesse, et dont le charme s'accroît à mesure que ma vie se retire. J'écarte mes vieux jours pour découvrir derrière ces jours des apparitions célestes, pour entendre du bas de l'abîme les harmonies d'une région plus heureuse. Madame de Staël mourut. Le dernier billet qu'elle écrivit à Madame de Duras était tracé en grandes lettres dérangées comme celles d'un enfant. Un mot affectueux s'y trouvait pour Francis. Le talent qui expire saisit davantage que l'individu qui meurt. C'est une désolation générale dont la société est frappée. Chacun, au même moment, fait la même perte. Avec Madame de Staël s'abattit une partie considérable du temps où j'ai vécu. Telle de ces brèches qu'une intelligence supérieure en tombant forme dans un siècle, ne se répare jamais. Sa mort fit sur moi une impression particulière, à laquelle se mêlait une sorte d'étonnement mystérieux. C'était chez cette femme illustre que j'avais connu Madame Récamier, et après de longs jours de séparation, Madame de Staël réunissait deux personnes voyageuses, devenues presque étrangères l'une à l'autre. Elle leur laissait à un repas funèbre son souvenir et l'exemple d'un attachement immortel. J'allai voir Madame Récamier rue Basse du Rempart et ensuite rue d'Anjou. Quand on s'est rejoint à sa destinée, on croit ne l'avoir jamais quittée. La vie, selon l'opinion de Pythagore, n'est qu'une réminiscence. Qui, dans le cours de ses jours, ne se remémore quelques petites circonstances indifférentes à tous, hors à celui qui se les rappelle? À la maison de la rue d'Anjou, il y avait un jardin. Dans ce jardin, un berceau de tilleuls, entre les feuilles desquelles j'apercevais un rayon de lune lorsque j'attendais Madame Récamier. Ne me semble-t-il pas que ce rayon est à moi et que si j'allais sous les mêmes abris, je le retrouverais? Je ne me souviens guère du soleil que j'ai vu briller sur bien des fronts. 23. L'abbaye au bois. J'étais au moment d'être obligé de vendre la vallée au loup, que Madame Récamier avait louée de moitié avec M. de Montmorency. De plus en plus éprouvée par la fortune, Madame Récamier se retira à l'abbaye au bois. La duchesse d'Abrantès parle ainsi de cette demeure. Guillemet. L'abbaye au bois, avec toutes ses dépendances, ses beaux jardins, ces vastes cloîtres dans lesquels jouaient de jeunes filles de tous les âges, au regard insoucieux, à la parole folâtre, l'abbaye au bois n'était connue que comme une sainte demeure, à laquelle une famille pouvait confier son espoir. Encore ne l'était-elle que par les mères, ayant un intérêt au-delà de sa haute muraille. Mais une fois que la sœur Marie avait fermé la petite porte, surmontée d'un attique, limite du Saint-Domaine, on traversait la grande cour qui sépare le couvent de la rue, non seulement comme un terrain neutre, mais étranger. Aujourd'hui, il n'en va pas ainsi. Le nom de l'abbaye au bois est devenu populaire. Sa renommée est générale et familière à toutes les classes. La femme qui y vient pour la première fois, en disant à ses gens « à l'abbaye au bois », est sûre de n'être pas questionnée par eux pour savoir de quel côté ils doivent tourner. D'où lui est venue, en aussi peu de temps, une renommée si positive, une illustration si connue. Voyez-vous deux petites fenêtres tout en haut dans les combles, là au-dessus des larges croisées du grand escalier? C'est une des petites chambres de la maison. Eh bien, c'est pourtant dans son enceinte que la renommée de l'abbaye au bois a pris naissance. C'est de là qu'elle est descendue, qu'elle est devenue populaire. Et comment ne l'aurait-elle pas été lorsque toutes les classes de la société savaient que dans cette chambre habitait une femme dont la vie était déshéritée de toutes les joies et qui néanmoins avait des paroles consolantes pour tous les chagrins, des mots magiques pour adoucir toutes les douleurs, des secours pour toutes les infortunes. Lorsque du fond de sa prison, Coudert entrevit l'échafaud, il était compromis dans l'affaire de Bory, quelle fut la pitié qu'il invoqua. « Va chez Madame Récamier, » dit-il à son frère. « Dis-lui que je suis innocent devant Dieu. Elle comprendra ce témoignage. » Et Coudert fut sauvé. Madame Récamier associa à son action libératrice cet homme qui possède en même temps le talent et la bonté. M. Ballanche seconda ses démarches et l'échafaud dévora une vie de moins. C'était presque une merveille présentée à l'étude de l'esprit humain que cette petite cellule dans laquelle une femme, dont la réputation est plus qu'européenne, était venue chercher du repos et un asile convenable. Le monde est ordinairement oublieux de ceux qui ne le convient plus à leur festin. Il ne le fut pas pour celle qui, jadis, au milieu de ses joies, écoutait encore plus une plainte que l'accent du plaisir. Non seulement la petite chambre du troisième de l'abbaye au bois fut toujours le but des courses des amis de Madame Récamier, mais comme si le prestigieux pouvoir d'une fée eût adouci la raideur de la montée, ces mêmes étrangers qui réclamaient comme une faveur d'être admis dans l'élégant hôtel de la Chaussée-d'Antin sollicitaient encore la même grâce. C'était pour eux un spectacle vraiment aussi remarquable qu'aucune rareté de Paris, de voir, dans un espace de 10 pieds sur 20, toutes les opinions réunies sous une même bannière, marcher en paix et se donner presque la main. Le vicomte de Chateaubriand racontait à Benjamin Constant les merveilles inconnues de l'Amérique. Mathieu de Montmorency, avec cette urbanité personnelle à lui-même, cette politesse chevaleresque de tout ce qui porte son nom, était aussi respectueusement attentif pour Madame Bernadotte, allant régner en Suède, qu'il aurait été pour la sœur d'Adélaïde de Savoie, fille d'Humbert au Blanchemain, cette veuve de Louis le Gros, qui avait épousé un de ses ancêtres. Et l'homme des temps féodaux n'avait aucune parole amère pour l'homme des jours libres. Assises à côté l'une de l'autre sur le même divan, la duchesse du faubourg Saint-Germain devenait polie pour la duchesse impériale. Rien n'était heurté enfin dans cette cellule unique. Lorsque je revis Madame Récamier dans cette chambre, je revenais à Paris, d'où j'avais été longtemps absente. C'était un service que j'avais à lui demander, et j'allais à elle avec confiance. Je savais bien, par des amis communs, à quel degré de force s'était porté son courage. Mais j'en manquais en la voyant là, sous les combles, aussi paisible, aussi calme que dans les salons dorés de la rue du Mont-Blanc. « Et quoi ? » me dis-je, « toujours des souffrances. » Et mon œil humide s'arrêtait sur elle avec une expression qu'elle dut comprendre. Hélas, mes souvenirs franchissaient les années, ressaisissaient le passé. Toujours battue de l'orage, cette femme que la renommée avait placée tout en haut de la couronne de fleurs du siècle, depuis 10 ans, voyait sa vie entourée de douleurs, dont le choc frappait à coups redoublés sur son cœur et la tuait. Lorsque, guidée par d'anciens souvenirs et un attrait constant, je choisis l'abbaye au bois pour mon asile, la petite chambre du troisième qu'elle avait occupée 10 ans n'était pas habitée par celle que j'aurais été y chercher. Madame Récamier occupait alors un appartement plus spacieux. C'est là que je l'ai vue, de nouveau. La mort avait éclairci les rangs des combattants autour d'elle. Et de tous ces champions politiques, M. de Chateaubriand était parmi ses amis presque le seul qui eût survécu. Mais vint à sonner aussi pour lui l'heure des mécomptes et de l'ingratitude royale. Il fut sage, il dit adieu à ses faux semblants de bonheur, et abandonna l'incertaine puissance tribunicienne pour en ressaisir une plus positive. On a déjà vu que dans ce salon de l'abbaye au bois, il s'agite d'autres intérêts que des intérêts littéraires, et que ceux qui souffrent peuvent tourner vers lui un regard d'espérance. Dans l'occupation constante où je suis depuis quelques mois de ce qui a rapport à la famille de l'empereur, j'ai trouvé quelques documents qui ne me paraissent pas être hors d'œuvre en ce moment. La reine d'Espagne se trouvait dans l'obligation absolue de rentrer en France. Elle écrivit à Madame Récamier pour la prier de s'intéresser à la demande qu'elle faisait, de venir à Paris. Monsieur de Chateaubriand était alors au ministère, et la reine d'Espagne, connaissant la loyauté de son caractère, avait toute confiance dans la réussite de sa sollicitation. Cependant, la chose était difficile, parce qu'il y avait une loi qui frappait toute cette famille malheureuse, même dans ses membres les plus vertueux. Mais M. de Chateaubriand avait en lui ce sentiment d'une noble pitié pour le malheur, qui lui fit écrire plus tard ces mots touchants. « Sur le compte des grands, je ne suis pas suspect. Leur malheur seulement attire mon respect. Je hais ce pharaon que l'éclat environne, mais s'il tombe à l'instant, j'honore sa couronne. Il devient à mes yeux roi par l'adversité. Des pleurs, je reconnais l'auguste autorité. Courtisan du malheur, etc., etc. » Monsieur de Chateaubriand écouta les intérêts d'une personne malheureuse. il interrogea son devoir qui ne lui imposa pas la crainte de redouter une faible femme, et 2 jours après la demande qui lui fut adressée, il écrivit à Madame Récamier que Madame Joseph Bonaparte pouvait rentrer en France, demandant où elle était, afin de lui adresser, par M. Durand de Mareuil, notre ministre alors à Bruxelles, la permission de venir à Paris sous le nom de la comtesse de Villeneuve. Il écrivit en même temps à M. Fagel. J'ai rapporté ce fait avec d'autant plus de plaisir qu'il honore à la fois celle qui demande et le ministre qui oblige, l'une par sa noble confiance, l'autre par sa noble humanité. Fin des guillemets. Madame d'Abrantès loue beaucoup trop ma conduite qui ne valait même pas la peine d'être remarquée. Mais comme l'auteur ne raconte pas tout sur l'abbaye au bois, je vais suppléer à ce qu'il a oublié ou omis. Le capitaine Roger, autre Coudert, avait été condamné à mort. Madame Récamier m'avait associé à son œuvre Pie pour le sauver. Benjamin Constant était également intervenu en faveur de ce compagnon de Caron, et il avait remis au frère du condamné la lettre suivante pour Madame Récamier. Guillemets. Je ne me pardonnerai pas, madame, de vous importuner toujours, mais ce n'est pas ma faute s'il y a sans cesse des condamnations à mort. Cette lettre vous sera remise par le frère du malheureux Roger, condamné avec Caron. C'est l'histoire la plus odieuse et la plus connue. Le nom seul mettra M. de Chateaubriand au fait. Il est assez heureux pour être à la fois le premier talent du ministère et le seul ministre sous lequel le sang n'est pas coulé. Je n'ajoute rien, je m'en remets à votre cœur. Il est bien triste de n'avoir presque à vous écrire que pour des affaires douloureuses. Mais vous me pardonnerez, je le sais, et je suis sûr que vous ajouterez un malheureux de plus à la nombreuse liste de ceux que vous avez sauvés. 1000 tendres respects, Benjamin Constant. Paris, le 1er mars 1823. Fin des guillemets. Quand le capitaine Roger fut mis en liberté, il s'empressa de témoigner sa reconnaissance à ses bienfaiteurs. Un après-dîner, j'étais chez Madame Récamier, comme de coutume. Tout à coup apparaît cet officier, il nous dit avec un accent du midi, « Sans votre intercession, ma tête roulait sur l'échafaud. » Nous étions stupéfaits, car nous avions oublié nos mérites. Ils s'écriaient, rouges comme un coq, « Vous ne vous en souvenez pas? Vous ne vous en souvenez pas ?» Nous faisions vainement 1000 excuses de notre peu de mémoire. Il partit, entrechoquant les éperons de ses bottes, furieux de ce que je ne me souvenais pas de notre bonne action, comme s'il eût eu à nous reprocher sa mort. Vers cette époque, Talma demanda à Madame Récamier à me rencontrer chez elle, pour s'entendre avec moi sur quelques vers de l'Othello de Ducy qu'on ne lui permettait pas de dire tels qu'ils étaient. Je laissai les dépêches et je courus au rendez-vous. Je passai la soirée à refaire avec le moderne Roscius les vers malencontreux. Il me proposait un changement, je lui en proposai un autre. Nous rimions à l'envi. Nous nous retirions à la croisée ou dans un coin pour tourner et retourner un hémistiche. Nous eûmes beaucoup de peine à tomber d'accord pour le sens et pour l'harmonie. Il eût été assez curieux de me voir, moi, ministre de Sa Majesté Louis XVIII, lui, Talma, roi de la Seine, oubliant ce que nous pouvions être, jouter de verve en donnant au diable la censure et toutes les grandeurs du monde. Mais si Richelieu faisait représenter ses drames en lâchant Gustave III sur l'Allemagne, ne pouvais-je pas, humble secrétaire d'État, m'occuper des tragédies des autres en allant chercher l'indépendance de la France à Madrid? Madame la duchesse d'Abrantès, dont j'ai salué le cercueil dans l'église de Chaillot, n'a peint que la demeure habitée de Madame Récamier. Je parlerai de l'asile solitaire. Un corridor noir séparait 2 petites pièces. Je prétendais que ce vestibule était éclairé d'un jour doux. La chambre à coucher était ornée d'une bibliothèque, d'une harpe, d'un piano, du portrait de Madame de Staël et d'une vue de Copé au clair de lune. Sur les fenêtres étaient des pots de fleurs. Quand tout est soufflé, après avoir grimpé 4 étages, j'entrais dans la cellule aux approches du soir, j'étais ravi. La plongée des fenêtres était sur le jardin de l'abbaye, dans la corbeille verdoyante duquel tournoyaient des religieuses et couraient des pensionnaires. La cime d'un acacia arrivait à la hauteur de l'œil. Des clochers pointus coupaient le ciel et l'on apercevait à l'horizon les collines de Sèvres. Le soleil couchant dorait le tableau et entrait par les fenêtres ouvertes. Madame Récamier était à son piano, l'angélus tintait, les sons de la cloche qui semblait pleurer le jour qui se mourait. Il giorno pianger che si muore se mêlait aux derniers accents de l'invocation à la nuit du Roméo et Juliette de Steibelt. Quelques oiseaux se venaient coucher dans les jalousies relevées de la fenêtre. Je rejoignais au loin le silence et la solitude par-dessus le tumulte et le bruit d'une grande cité. Dieu, en me donnant ses heures de paix, me dédommageait de mes heures de trouble. J'entrevoyais le prochain repos que croit ma foi, que mon espérance appelle. Agité au dehors par les occupations politiques ou dégoûté par l'ingratitude des cours, la placidité du cœur m'attendait au fond de cette retraite, comme le frais des bois au sortir d'une plaine brûlante. Je retrouvais le calme auprès d'une femme de qui la sérénité s'étendait autour d'elle, sans que cette sérénité eût rien de trop égal, car elle passait au travers d'affections profondes. Hélas, les hommes que je rencontrais chez Madame Récamier, Mathieu de Montmorency, Camille Jordan, Benjamin Constant, le duc de Laval, ont été rejoindre Hingant, Joubert, Fontane, autres absents d'une autre société absente. Parmi ces amitiés successives se sont élevés de jeunes amis, rejetons printaniers d'une vieille forêt où la coupe est éternelle. Je l'ai pris. Je prie Monsieur Ampère qui veut bien me remplacer quand j'aurai disparu et qui lira ceci en revoyant mes épreuves. Je leur demande à tous de me conserver quelques souvenirs. Je leur remets le fil de la vie dont la chessis laisse échapper le bout sur mon fuseau. Mon inséparable camarade de route, M. Ballanche, s'est trouvé seul au commencement et à la fin de ma carrière. Il a été témoin de mes liaisons rompues par le temps, comme j'ai été témoin des siennes entraînées par le Rhône. Les fleuves minent toujours leurs bords. Le malheur de mes amis a souvent penché sur moi, et je ne me suis jamais dérobé au fardeau sacré. Le moment de la rémunération est arrivé. Un attachement sérieux daigne m'aider à supporter ce que leur multitude ajoute de pesanteur à des jours mauvais. En approchant de ma fin, il me semble que tout ce que j'ai aimé, je l'ai aimé dans Madame Récamier, et qu'elle était la source cachée de mes affections. Mes souvenirs de divers âges, ceux de mes songes, comme ceux de mes réalités, se sont pétris, mêlés, confondus pour faire un composé de charmes et de douces souffrances dont elle est devenue la forme visible. Elle règle mes sentiments, de même que l'autorité du ciel a mis le bonheur, l'ordre et la paix dans mes devoirs. Je l'ai suivie, la voyageuse, par le sentier qu'elle a foulé à peine. Je la devancerai bientôt dans une autre patrie. En se promenant au milieu de ses mémoires, dans les détours de la basilique que je me hâte d'achever, elle pourra rencontrer la chapelle qu'ici je lui dédie. Il lui plaira peut-être de s'y reposer. J'y ai placé son image. Thank you.
Thank you.